Ère de la diffusion. An 7. Yun Tianming. Vu à travers les hublots de la cabine d'ascenseur, le monde de Cheung Sin se réduisait à une glissière de 80 cm de largeur. Celle-ci s'étendait sans fin sous ses pieds et au-dessus de sa tête, si bien que Cheung Sin n'en voyait aucune extrémité. Cela faisait déjà une heure qu'elle était partie et elle se trouvait à présent à plus de 1000 km au-dessus du niveau de la mer. Elle avait depuis bien longtemps dépassé l'atmosphère. En dessous, la terre était plongée dans l'obscurité nocturne et les frontières des continents se brouillaient jusqu'à paraître immatérielles. Au-dessus, l'espace était une étendue d'un noir uniforme dans laquelle on ne voyait aucun signe du terminal de l'ascenseur spatial situé 30 000 km plus haut, de sorte que la glissière donnait l'impression de mener vers une route sans retour. Même si elle avait travaillé comme ingénieure dans l'industrie aérospatiale pendant l'ère commune, c'était la première fois en près de 3 siècles que Cheung Sin se rendait dans l'espace. Il n'était déjà plus nécessaire aujourd'hui de suivre des entraînements particuliers pour embarquer à bord d'un véhicule spatial, mais tenant compte de son manque d'expérience, l'équipe de support technique lui avait tout de même suggéré de prendre l'ascenseur spatial. La cabine s'élevant pendant tout le trajet à une vitesse stable et en ligne droite, aucune hypergravité n'était à craindre. Par ailleurs, la gravité à l'intérieur de la cabine n'avait jusqu'ici pas beaucoup baissé et elle continuerait à diminuer graduellement jusqu'à atteindre une apesanteur totale une fois la cabine arrivée dans le terminal en orbite géosynchrone. De temps à autre, Cheung Sin voyait des petits points passer dans le lointain, sans doute des satellites se déplaçant à la première vitesse cosmique. Il n'y avait bien qu'à bord de ces appareils orbitant autour de la Terre qu'on ressentait l'apesanteur à cette altitude. La surface de la glissière était lisse, et il était presque impossible de la voir en mouvement, si bien que la cabine paraissait suspendue et statique sur le rail. En réalité, elle se déplaçait en ce moment même à une vitesse de 1500 km à l'heure, soit celle d'un avion supersonique. L'ascenseur pouvait relier la Terre à l'orbite géosynchrone en 20 heures environ, ce qui était terriblement lent à l'échelle des voyages spatiaux. Cheung Sin se remémora une discussion qu'elle avait eue avec Yun Tianming à l'université. Il avait pointé le fait qu'il était en principe tout à fait possible de naviguer dans l'espace à une vitesse faible. Tant que l'on pouvait maintenir une accélération constante, on pourrait naviguer dans l'espace et même rejoindre l'orbite lunaire aussi lentement qu'une voiture ou qu'un marcheur. Toutefois, un alunissage n'était dans ce cas pas envisageable, car la vitesse relative entre le navigateur et la Lune serait de plus de 3000 km à l'heure. Si celui-ci tentait de réduire sa vitesse jusqu'à se retrouver en état de repos par rapport à la Lune, il lui faudrait augmenter considérablement sa vitesse par rapport à la Terre. Et cela revenait donc à reprendre une navigation à haute vitesse. Cheung Sin se rappelait encore très bien ce que Yun Tianming avait fini par dire. Il devait être bouleversant de frôler et de contempler la Lune depuis son orbite. Elle expérimentait en ce moment précis la navigation à vitesse faible qu'il avait imaginée. L'ascenseur, de la forme d'une gélule, comportait 4 étages. Cheung Sin se trouvait au dernier d'entre eux, tandis que ceux qui l'accompagnaient occupaient les 3 étages inférieurs. Elle pouvait donc être seule. Elle voyageait en première classe et disposait d'une chambre digne d'un hôtel 5 étoiles. Elle bénéficiait d'un lit confortable et d'une salle de bain. Pourtant, la suite était étroite, elle ne devait pas être plus grande que la chambre d'un dortoir. Ces derniers temps, elle ne cessait de repenser aux années passées à l'université. Elle ne cessait de repenser à Yun Tianming. À cette altitude, le cône d'ombre de la Terre était plus étroit et le soleil faisait son apparition. Tout à l'extérieur était inondé par une lumière vive. Les hublots ajustèrent automatiquement leur degré d'obscurité. Allongé sur le canapé, Cheung Sin continuait à fixer la glissière à travers le hublot supérieur. Cette interminable ligne droite semblait descendre tout droit de la Voie lactée. Elle essayait de distinguer un mouvement sur le rail, ou du moins de l'imaginer. Cet effort avait un effet hypnotisant et elle ne tarda pas à s'endormir. Cheung Sin entendit murmurer son nom. C'était une voix masculine, Elle se vit au milieu d'un dortoir d'université, étendue au niveau inférieur d'un lit superposé. Mais la chambre était vide. Elle aperçut une ombre se mouvoir sur le mur, à la manière de la lumière d'un lampadaire à l'intérieur d'une voiture. Elle jeta un coup d'œil à la fenêtre et découvrit derrière le familier parasol chinois que le soleil traversait sans relâche le ciel à toute vitesse, se levant et se couchant toutes les quelques secondes. Cependant, au moment où l'étoile émergeait de l'horizon, le ciel demeurait imperturbablement noir, tandis que les étoiles scintillaient de concert avec l'astre du jour. La voix continuait à l'appeler par son nom. Elle voulut se lever pour regarder, mais découvrit que son corps flottait au-dessus de son matelas, de même que ses livres, sa tasse et son ordinateur portable. Cheng Xin se réveilla en sursaut et constata qu'elle flottait vraiment au milieu de sa chambre, planant à une petite distance déjà du canapé. Elle tendit la main pour attraper le mobilier, mais elle eut un geste maladroit et s'éleva jusqu'au plafond, où elle céda du hublot supérieur pour se retourner et redescendre. L'intérieur de la cabine n'avait pas changé. Seuls quelques moutons de poussière soulevés sous l'effet de la pesanteur chatoyaient sous les rayons du soleil. Ce n'est qu'alors qu'elle remarqua qu'un fonctionnaire du Conseil de défense planétaire qui l'accompagnait l'avait rejointe dans sa cabine. Peut-être était-ce lui qui venait de l'appeler. Il la regardait, amusé. « Docteur Cheng, vous dites que c'est la première fois que vous allez dans l'espace ?» demanda le fonctionnaire. Et il sourit en secouant la tête quand Cheng Xin lui adressa une réponse positive. « On ne dirait pas, vraiment pas. » Cheng Xin était elle aussi surprise de son aisance. Sa première expérience en apesanteur ne lui causait aucune panique ni aucun inconfort. Elle paraissait s'accommoder facilement de ce nouvel état et n'éprouvait ni nausée ni vertige, comme si elle avait de tout temps naturellement appartenu à l'espace. « Nous allons bientôt arriver, » fit l'homme en désignant le hublot. Cheng Xin leva la tête et vit encore une fois la glissière de l'ascenseur, mais cette fois, elle pouvait détecter le mouvement de la cabine. C'était le signe qu'ils étaient en train de ralentir. À l'extrémité du rail, on pouvait déjà deviner les contours du terminal, une structure composée de plusieurs anneaux concentriques reliés entre eux par 5 rayons radio. Le terminal n'occupait à l'origine que la petite partie centrale de l'architecture. Les anneaux tout autour avaient été construits à des époques postérieures. Les plus récents étaient les anneaux extérieurs. Toute la station était en rotation lente. Cheng Xin constata aussi que les structures spatiales étaient de plus en plus nombreuses autour de la station. Leur bâtisseur avait profité de la proximité du terminal de l'ascenseur pour le lancement des chantiers. Leur forme était hétéroclite. De loin, on aurait dit un tas de jouets complexes et délicats. Ce n'était qu'en passant près d'eux qu'on pouvait pleinement prendre conscience de leur immensité. Cheng Xin savait que l'un de ces édifices abritait le siège de sa compagnie de construction spatiale, le groupe Halo. AA y travaillait en ce moment même, mais Cheng Xin n'aurait pas su dire dans quel bâtiment. La cabine s'engouffra dans une énorme cage, sur les grilles compactes de laquelle venaient se briser les rayons du soleil. Quand elle émergea de l'autre côté, le terminal occupait déjà la majeure partie de la vue. On ne voyait scintiller la Voie lactée qu'à travers l'espace entre les anneaux concentriques. Cette immense construction couvrait tout l'espace visible. Quand la cabine entra dans le terminal, tout s'assombrit, comme si elle s'était engouffrée dans un tunnel. Quelques minutes plus tard, des lumières puissantes illuminèrent l'extérieur. La cabine de l'ascenseur avait rejoint le grand hall du terminal où elle venait de s'arrêter. Le hall était en rotation autour de la cabine. Pour la première fois, Cheng Xin sentit sa tête tourner, mais une fois la cabine détachée du mécanisme de la glissière et maintenue par un dispositif de blocage sur le quai, elle se mit à suivre après de légers soubresauts, la même rotation que le terminal. Tout redevint normal autour d'elle. Elle sortit de l'ascenseur et entra dans le hall circulaire en compagnie des 4 autres individus. Comme ils étaient les passagers de la seule cabine actuellement sur le quai, le hall leur sembla démesurément large. L'endroit parut tout d'abord familier à Cheng Xin. Si le hall était saturé de fenêtres d'information flottantes, sa structure principale était conçue à l'ancienne, à base de matériaux métalliques aujourd'hui devenus rares, principalement de l'acier inoxydable et de l'alliage d'aluminium. On pouvait repérer partout les traces du passage du temps. Elle n'avait pas l'impression d'être dans une station spatiale, mais dans le hall d'une vieille gare ferroviaire. Il venait d'ailleurs de prendre le tout premier ascenseur spatial humain. Le terminal avait quant à lui été achevé en l'an 15 de la Grande Crise et avait déjà été utilisé en continu pendant plus de 2 siècles, bien qu'il ait été fermé pendant le Grand Ravin. Chung Sin remarqua les nombreuses rambardes entrecroisées dans le hall qui permettaient aux astronautes de se déplacer en apesanteur. C'était de toute évidence de vieilles installations, car les hommes utilisaient aujourd'hui des mini-propulseurs. Ceux-ci se fixaient à la taille ou à l'épaule et permettaient de se déplacer en apesanteur grâce à une télécommande multidirectionnelle. La plupart de ces rambardes étaient fabriquées en acier inoxydable, bien que certaines soient aussi faites en cuivre. En regardant leur surface usée par les innombrables mains qui les avaient touchées depuis plus de 2 siècles, Chung Sin pensa aux profondes ornières laissées devant les portes des cités antiques. La première leçon spatiale qu'entreprirent de lui donner les compagnons de Chung Sin fut de lui apprendre à utiliser les mini-propulseurs d'apesanteur. Cependant, elle se sentait plus à l'aise en se cramponnant aux rambardes pour se déplacer. Quand ils atteignirent la sortie du grand hall, le regard de Chung Sin fut attiré par des posters accrochés sur le mur principal. C'étaient de vieilles images de propagande dont la majorité avait trait à la mise en place d'un système de défense du système solaire. L'une d'entre elles représentait le visage d'un militaire. Vêtu d'un uniforme que Chung Sin n'avait jamais vu, il fixait l'observateur avec des yeux ardents. En dessous, on lisait ces mots en gros caractères. « La Terre a besoin de toi ». À côté, sur un autre poster encore plus large, un groupe d'individus aux peaux de toutes les couleurs se tenait par les coudes et se dressait comme un épais rempart devant le drapeau bleu des Nations Unies qui occupait une bonne partie de l'arrière-plan. On pouvait cette fois lire « Avec notre chair et notre sang, bâtissons la grande muraille du système solaire ». Chung Sin était saisi d'étrangeté devant la vision de ces posters. Il paraissait surgir d'un passé depuis longtemps révolu, d'une période datant d'avant sa naissance. « Il date du début du Grand Ravin », précisa un membre du CDP. Durant cette courte période totalitaire, le monde entier s'était retrouvé sous le coup de la loi martiale et tout s'était effondré. La foi, la vie, tout. Pourquoi avait-on conservé ces affiches jusqu'à aujourd'hui? Pour se souvenir ou pour oublier? Chung Sin et ses compagnons sortirent du grand hall et empruntèrent un très long couloir dont la section transversale était elle aussi circulaire. Le couloir s'étendait droit devant eux sur une distance telle qu'on n'en voyait pas le bout. Chung Sin savait qu'il se trouvait à l'intérieur d'un des 5 rayons qui reliaient les anneaux concentriques du terminal. Ils se déplacèrent au début en apesanteur, mais très vite, la gravité artificielle générée par la force centrifuge se fit ressentir. Ils purent alors éprouver peu à peu les sensations du haut et du bas. Le couloir original devint soudain un puits sans fond, et flotter revenait désormais à chuter, ce qui ne fut pas sans causer quelques vertiges à Chung Sin. Mais un grand nombre de rambardes étaient installées sur les parois du puits. Si elles chutaient trop rapidement, elles pourraient s'y agripper pour ralentir. Ils arrivèrent à la première intersection. Chung Sin observa le couloir perpendiculaire au leur. Dans les 2 directions, elle remarqua que le sol s'élevait, comme s'il se trouvait au bas d'une petite colline. Il s'agissait de toute évidence du premier anneau du terminal. Des panneaux clignotants étaient placés au niveau des 2 entrées, sur lesquelles il était inscrit « Premier anneau, gravité de 0,15 G ». Sur les 2 parois du couloir arqué se profilaient de multiples portes qui s'ouvraient et se fermaient de temps à autre. L'endroit était fréquenté par de nombreux piétons, et bien qu'ils puissent se mettre debout sans peine en raison de la microgravité de l'anneau, ils se déplaçaient tout de même par bond à l'aide de leur mini-propulseur. Passé le premier anneau, la gravité continua à augmenter. Se déplacer en chute libre n'était déjà plus si sûr, c'est pourquoi des escaliers mécaniques avaient été aménagés le long des parois du puits. En croisant des individus marchant dans l'autre sens, Chung Sin nota qu'ils étaient vêtus de tenues décontractées très similaires à celles portées par les citoyens des villes de la surface. Sur les parois du puits s'affichaient de nombreuses fenêtres d'information de toute taille, dont une bonne partie retransmettait l'image de Chung Sin lors de sa montée dans l'ascenseur spatial plus de 20 heures plus tôt. Mais ici, entouré par ses 4 compagnons et chaussé de lunettes de soleil aux montures épaisses, personne ne pouvait la reconnaître. Au cours de la descente qui s'amorça ensuite, ils franchirent 7 anneaux concentriques de plus. Tandis que leur diamètre s'élargissait, l'inclinaison des 2 couloirs s'adoucissait petit à petit. À l'intérieur de ce puits, Chung Sin avait l'impression de traverser différentes strates d'histoire. Pendant 2 siècles, le terminal s'était agrandi d'anneau en anneau, de l'intérieur vers l'extérieur, de sorte que plus Chung Sin et les autres avançaient, plus la strate était récente. Les matériaux de construction utilisés différaient pour chaque anneau et l'impression de nouveauté par rapport à l'anneau précédent était chaque fois sensible. L'agencement et la décoration de chaque anneau témoignaient en outre de l'époque à laquelle il avait été bâti. Couleurs militaires et architecture froide et uniforme pour le grand ravin, optimisme et romantisme pour le dernier demi-siècle de la grande crise, liberté et hédonisme indolent pour l'ère de la dissuasion. Jusqu'au 4e anneau, les cabines intérieures étaient intégrées à l'anneau lui-même, mais à partir du 5e, ceux-ci ne présentaient que des espaces de construction. En effet, les bâtiments avaient été planifiés et édifiés après la construction de l'anneau, comme des annexes à celui-ci. Le tout offrait une riche variété de styles architecturaux. À mesure de la descente, on se sentait de moins en moins à bord d'un terminal d'ascenseur spatial, et l'ensemble rappelait petit à petit davantage le cadre de vie de la surface. Quand ils eurent atteint le 8e anneau, l'anneau le plus récent à ce jour, ils virent que le style architectural était similaire à celui que l'on trouvait dans les petites villes terrestres. Ils se seraient crus sur une rue piétonne très fréquentée, d'autant que la gravité atteignait déjà le standard de 1G. Chung Sin en oubliait presque qu'elle était dans l'espace, à 34 000 km de la Terre. Mais ce paysage urbain disparut rapidement. Un petit véhicule motorisé les transporta en un lieu où ils purent de nouveau voir l'espace. C'était une grande salle sans dénivelé où la mention « Spatioport A225 » était affichée à l'entrée. Plusieurs dizaines d'appareils spatiaux aux formes variées stationnaient sur cette surface plane aussi vaste qu'une grande place. L'un des pans de la salle était complètement ouvert vers l'espace et l'on pouvait y contempler une multitude d'étoiles tournant au rythme de la rotation du terminal. Non loin, une lumière aveuglante illumina soudain tout le spatioport. Peu à peu, cette boule de lumière passa d'un jaune orangé à un bleu pur, et le vaisseau spatial qui venait d'allumer ses moteurs glissa lentement sur le sol, avant d'accélérer rapidement et de s'engouffrer dans l'espace par l'ouverture du spatioport. Chung Sin était témoin d'un miracle technologique auquel tout le monde s'était déjà accoutumé. Encore aujourd'hui, elle ignorait comment il était possible de maintenir l'oxygène et la pression dans une structure spatiale n'étant pas entièrement close. Ils longèrent une rangée d'appareils et arrivèrent dans une petite zone vide au bout du spatioport. N'était stationnée ici qu'une minuscule capsule spatiale. À côté d'elle, un groupe de gens attendait visiblement leur arrivée. La voie lactée passa lentement devant le pan ouvert du spatioport. Sa lumière allongea les ombres de la capsule et des individus du petit groupe, transformant la zone en une horloge gigantesque dont les silhouettes faisaient office d'aiguille. Cette unité spéciale était constituée de membres du CDP et des flottes internationales réunies spécialement à l'occasion de cette rencontre. Chung Sin connaissait la plupart d'entre eux. Ils avaient pris part à la cérémonie de transfert de l'autorité du porte-épée. À leur tête se trouvait le président tournant du CDP et le chef d'état-major de la flotte solaire. Le président du CDP avait changé, mais le chef d'état-major était le même que 7 ans plus tôt. Ces 7 années, sans conteste les plus longues de toute l'histoire humaine, avaient laissé des traces indélébiles sur leur visage. Aucun mot ne fut échangé. Ils se serrèrent la main dans un silence chargé d'émotion. Chung Sin examina la capsule spatiale. Les appareils spatiaux de vol à courte distance possédaient des formes très diverses, mais aucun ne se présentait sous ce profil effilé pourtant souvent évoqué dans l'imagination populaire des temps anciens. la forme de cette capsule était la plus répandue, sphérique. Elle était si régulière que Chung Sin n'arrivait pas à savoir de quel côté se trouvait son propulseur. Son volume était à peu près similaire à celui d'un bus. Elle ne portait aucun nom et n'était identifiable que par le numéro de série gravé sur sa coque. C'était à bord de cet objet parfaitement banal que Chung Sin se rendrait au lieu de rencontre avec Yun Tianming. 3 jours plus tôt, après avoir pris congé de Chung Sin et Luo Ji, Intellectra avait fourni à la Terre tous les détails concernant la rencontre. Avant toute chose, elle avait exposé le principe de base de cette conversation. Elle concernait Yun Tianming et Chung Sin, et eux seuls. Le contenu de leur échange ne regarderait qu'eux et il ne devrait en aucun cas être question de la technologie, de la politique ou de l'armée trisolarienne. Yun Tianming n'était pas autorisé à aborder ces sujets et Chung Sin ne pourrait poser aucune question s'y rapportant. Personne d'autre ne serait autorisé à assister à leur discussion et aucun enregistrement sous quelque forme que ce soit n'était permis. La rencontre se déroulerait dans l'espace à un point d'équilibre gravitationnel, un point de Lagrange du système Soleil-Terre à une distance d'1 500 000 km de la planète. La liaison avec la première flotte trisolarienne serait établie par l'intermédiaire des intellectrons. La retransmission aurait lieu en direct et ils pourraient utiliser le son et la vidéo. Pourquoi fallait-il que la rencontre ait lieu dans l'espace et aussi loin? À une époque où la communication par neutrino était possible, on n'était pourtant pas plus isolé dans l'espace qu'à la surface. Mais selon Intellectra, cette exigence avait une valeur symbolique. La rencontre se tiendrait en terrain neutre, pour rappeler qu'elle n'avait rien à voir avec les deux mondes. Quant au choix précis du point de Lagrange, ce n'était que pour assurer à Chung Sin un meilleur confort. En outre, selon la coutume trisolarienne, une rencontre de ce type devait se dérouler au niveau d'un point d'équilibre gravitationnel. Tout cela, c'était ce que Chung Sin savait déjà. Mais on s'apprêtait maintenant à lui confier quelque chose de beaucoup plus important. Le chef d'état-major l'accompagna dans la capsule. L'espace était si exigu qu'il ne pouvait abriter que 4 passagers. À peine assis, une moitié de la paroi sphérique de la capsule devint transparente et ils eurent l'impression de se trouver à l'intérieur du casque d'une combinaison spatiale géante. Le choix d'une capsule de ce type s'expliquait peut-être principalement par la vue dégagée qu'elle permettait. Les véhicules spatiaux modernes ne disposaient plus de modules de contrôle manuel. L'écran de pilotage n'était qu'une simple projection holographique, de sorte que l'intérieur de la capsule apparaissait complètement nu. Si un individu de l'ère commune était entré ici pour la première fois, il aurait certainement eu l'impression de monter à bord d'une coquille vide. Toutefois, Chung Sin remarqua aussitôt 3 objets inhabituels qui avaient certainement dû être ajoutés après coup. 3 disques étaient accrochés en haut du hublot, respectivement de couleurs verte, orange et rouge, rappelant à ceux qui les avaient connus les feux de signalisation de l'ancien temps. Le chef d'état-major lui expliqua leur utilité. « Ces 3 lumières sont contrôlées par les intellectrons. Votre conversation se déroulera sous surveillance vocale et vidéo. Si les trisolariens considèrent que le contenu de celle-ci est acceptable, la lumière verte restera allumée. En cas de contenu inopportun, la lumière passera à l'orange en guise d'avertissement. » À ces mots, le chef d'état-major se tut, et ce ne fut qu'après un long moment qu'il parut enfin se décider à confier à Chung Sin le sens de la lumière rouge. « S'il considère que vous avez reçu une information qui n'aurait pas dû être portée à votre connaissance, la lumière rouge s'allumera. » Il se retourna et désigna la partie de la paroi non transparente derrière eux. Chung Sin aperçut un petit objet métallique qui n'avait pas attiré son attention jusqu'ici. On aurait dit un poids utilisé dans les balances d'antan. C'est un explosif, également contrôlé par les intellectrons. Il se déclenchera 3 secondes après la lumière rouge et détruira tout. Tout ? Demanda Chung Sin, qui ne pensait pas à elle. Tout, ici, seulement. Vous n'avez pas à vous en faire pour la sécurité de Yun Tianming. Intellectra nous a clairement indiqué que même si la lumière rouge devait s'allumer, seule cette capsule serait détruite. il ne sera pas fait de mal à Yun Tianming. La lumière rouge peut donc s'allumer pendant la conversation, mais si toute la rencontre se passe normalement et qu'en réécoutant son contenu, les trisolariens découvrent qu'une information compromettante a été transmise, elle pourra aussi s'allumer après coup. À présent, je dois vous dire le plus important. Le chef d'état-major replongea dans le silence. Le regard de Chung Sin était calme. Elle lui sourit en hochant la tête, l'incitant à poursuivre. « Faites attention. Le vert, l'orange et le rouge ne s'allumeront pas forcément dans cet ordre. Il peut n'y avoir aucun avertissement. La lumière est susceptible de passer directement du vert au rouge. » « Bien, j'ai compris, » dit Chung Sin. Sa voix avait la douceur de la brise. En dehors du contenu de la conversation, un autre facteur est susceptible de provoquer le passage au rouge. Si les intellectrons détectent un système d'enregistrement ou de transmission d'informations à l'intérieur de la capsule. Mais rassurez-vous, cela n'arrivera pas. La capsule a été inspectée plusieurs fois et tous les équipements de communication de l'appareil ont été désactivés, y compris même le système de navigation. Toute la traversée sera opérée par le système d'intelligence artificielle de la capsule. Aucune communication ne sera possible avec le monde extérieur, sous quelque forme que ce soit, avant votre retour. Docteur Chung, je pense que vous avez compris ce que cela signifiait. Si je ne reviens pas, vous n'obtiendrez rien. Je suis heureux que vous puissiez nous comprendre. C'est ce sur quoi nous voulions insister. Faites comme ils vous le disent, ne parlez que de vous deux, n'évoquez aucun autre sujet, rien qui soit métaphorique ou allusif. Le moment venu, rappelez-vous toujours ceci. Si vous ne revenez pas, la Terre n'obtiendra rien. Mais si j'agis ainsi et que je reviens, la Terre n'obtiendra rien non plus. Ce n'est pas non plus ce que je souhaite. Le chef d'état-major jeta un regard sur elle, mais sans la fixer directement. Il se contenta d'observer son reflet sur la paroi transparente devant elle. Son image se superposait aux étoiles dont ses yeux reflétaient paisiblement la lueur. Il lui semblait tout à coup que c'étaient les astres qui tournaient autour d'elle et qu'elle était devenue le centre de l'univers. Il prit sur lui de ne pas chercher une nouvelle fois à la dissuader de prendre des risques. Au lieu de cela, il prononça cette phrase. « Ceci, » fit-il en pointant la paroi dans son dos, « c'est une bombe à hydrogène miniature. Selon la vieille méthode de mesure de votre époque, elle a une puissance de 5 kilotonnes. Elle serait en mesure d'anéantir une ville entière. Si cela devait arriver, tout irait très vite, vous ne souffririez pas. » Chung Sin adressa un nouveau sourire détaché au chef d'état-major. « Merci, j'ai compris. » 5 heures plus tard, la capsule spatiale décolla du spatioport. L'hypergravité de 3G plaqua Chung Sin sur son siège. C'était la limite de l'accélération qu'était capable de supporter une personne ordinaire. Sur une fenêtre holographique, elle observa la vue qui s'offrait à l'arrière de la capsule. Elle vit le reflet de la lueur du moteur sur l'énorme coque externe du terminal. La capsule paraissait être une petite étincelle échappée d'un brasier, mais la taille du terminal se réduisit rapidement et la gigantesque structure où se trouvait Chung Sin encore quelques instants plus tôt ne fut bientôt plus qu'un simple point. Seule la Terre occupait encore avec majesté la moitié du ciel. Ceux qui l'avaient accueilli dans le spatioport avaient répété plusieurs fois à Chung Sin que le vol en lui-même serait tout à fait banal et qu'il serait très similaire au voyage qu'elle avait pu effectuer autrefois à bord d'un avion civil. La distance entre le terminal et le point de Lagrange était d'1 500 000 km, soit environ 1/100 d'unité astronomique, ce qui représentait un voyage très court, auquel était généralement dédié ce genre de petite capsule sphérique. Chung Sin se souvint que l'une des raisons qui l'avait poussé 3 siècles plus tôt à étudier la navigation aérospatiale était son admiration pour cet exploit héroïque datant de l'ère commune, lors duquel 15 hommes avaient marché sur la Lune. Leur voyage ne s'était toutefois déroulé que sur 1/5 de la distance du périple qu'elle s'apprêtait maintenant à parcourir. Après plus d'une dizaine de minutes, Chung Sin contempla son premier lever de soleil dans l'espace. L'extrémité arquée du soleil s'éleva lentement depuis la Terre, tandis que le Pacifique, dont les vagues étaient déjà rendues floues par la distance, reflétait l'éclat de ses rayons sur sa surface miroitante. Une épaisse couche de nuages semblait agglutinée sur ce miroir tel de la mousse de savon blanche. Depuis cette position, le soleil apparaissait beaucoup plus petit que la Terre, comme si ce monde bleu sombre avait pondu un œuf d'or à l'éclat étincelant. Quand le disque solaire eut franchi en entier l'horizon courbe, la partie de la Terre qui faisait face au soleil s'illumina en un croissant si brillant que le reste de la planète fusionnait avec les ténèbres. Le soleil et le croissant terrestre en dessous de lui composaient dans l'espace un gigantesque symbole que Cheng Xin interpréta comme celui de la Renaissance. Elle savait néanmoins que ce serait peut-être sa dernière aube. Dans la rencontre à venir, même si Yun Tianming et elle suivaient rigoureusement les règles édictées, il y avait un risque potentiel que ce monde lointain ne la laisse pas rentrer vivante. Et elle n'avait aucune envie de se conformer aux règles. Pourtant, elle avait la sensation que tout était parfait ainsi, qu'il n'y aurait rien à regretter. À mesure que la capsule s'avançait vers le point de rencontre, la portion illuminée de la Terre s'élargissait peu à peu. Cheng Xin observa les contours des continents et reconnut sans peine l'Australie, qui ressemblait à une grosse feuille d'arbre tombée au milieu du Pacifique. Le continent émergeait tout juste des ténèbres et son centre marquait précisément la limite entre clarté et obscurité. C'était le matin à Warburton. Elle s'imagina Coupard contemplant en bordure de sa forêt le lever de soleil sur le désert. La capsule était en train de dépasser la Terre. Lorsque l'horizon incurvé disparut finalement du champ de vision du hublot, l'accélération stoppa. Avec la disparition de l'hypergravité, Cheng Xin sentit que les deux bras qu'il avait empoignés jusqu'ici la relâchaient brusquement. La capsule glissait en vol libre dans la direction du soleil. L'éclat de l'astre du jour engloutissait celui de toutes les autres étoiles. La paroi transparente devant elle s'assombrit automatiquement et la lumière aveuglante du soleil se voila. Cheng Xin assombrit encore un peu manuellement la paroi jusqu'à ce que le soleil ne ressemble plus qu'à une pleine lune. Il restait encore 6 heures de voyage. Cheng Xin flottait en apesanteur, baigné par les rayons lunaires du soleil. 5 heures plus tard, la capsule fit une rotation de 180 degrés et le moteur amorça la décélération. Tandis que l'appareil pivotait, Cheng Xin vit que le soleil se décalait lentement, puis les étoiles et la voie lactée se déroulèrent à leur tour devant elle comme un grand parchemin. Enfin, quand la capsule se fut immobilisée, la Terre réapparut au centre de son champ de vision, mais elle avait maintenant la taille de la Lune vue depuis la surface de la Terre. L'image majestueuse qu'elle avait laissée quelques heures plus tôt faisait à présent place à celle d'un fragile fœtus baignant dans un liquide amniotique de couleur bleue, qui aurait été arraché à l'utérus chaud de sa mère et exposé au froid et à l'obscurité de l'espace. Le moteur se remit en marche et Cheng Xin se retrouva de nouveau happé par la gravité. Le processus de décélération se poursuivit encore environ une demi-heure, puis le moteur opéra un dernier ajustement de sa position. La sensation de gravité disparut et tout redevint silencieux. Elle se trouvait au point de Lagrange. La capsule était à cet instant devenue un satellite du Soleil, orbitant autour de lui de façon synchrone avec la Terre. Cheng Xin jeta un coup d'œil à sa montre. La durée du voyage avait été calculée avec précision. Il lui restait 10 minutes avant l'heure du rendez-vous. L'espace autour d'elle était vide, et elle s'efforça de faire de même dans son esprit. Elle devait être prête à retenir une grande quantité d'informations. La seule chose qui pourrait garder en mémoire toutes les informations qui lui seraient transmises était son propre cerveau. Elle devait se transformer en magnétoscope dépourvu de sentiments. Durant les 2 heures que durerait leur échange, elle aurait la difficile tâche de mémoriser tout ce qu'elle verrait et entendrait. Elle se représenta le coin d'espace où elle se trouvait maintenant. Les champs de gravité du Soleil et de la Terre se compensaient et offrait une dimension de vide en plus par rapport à n'importe quelle autre région de l'espace. dans ce point zéro, elle était une existence cosmique autonome, ne dépendant d'aucun monde. Se laissant aller à cette songerie, elle chassa de son esprit les émotions complexes qui l'habitaient et parvint peu à peu à faire le vide. Non loin de la capsule, un intellectron commença à se déployer en dimension basse. À quelques mètres de distance de l'appareil, une sphère de 3 ou 4 mètres de diamètre s'imposa à son regard en lui cachant la Terre. La surface de la sphère était parfaitement réfléchissante, et Chung Sin pouvait nettement y voir son reflet ainsi que celui de l'habitacle de la capsule. Elle ignorait si l'intellectron s'était dissimulé à l'intérieur de l'appareil ou s'il l'attendait ici. La surface réfléchissante se dissipa néanmoins rapidement, tandis que la sphère devenait translucide à la manière d'une grande bulle de glace. L'espace d'un instant, Chung Sin crut qu'un trou avait été creusé dans l'espace. Puis une myriade de flocons de neige lumineux se mirent à flotter dans la sphère, dessinant un motif clignotant à sa surface. Chung Sin vit que ce n'était que du bruit blanc, un peu comme la neige sur un écran de télévision. Le bruit persista environ 3 minutes, et une image provenant de quelques années-lumière de distance s'esquissa dans la sphère. Elle était très nette, sans aucune déformation ni aucune interférence. Chung Sin avait essayé un nombre incalculable de fois de deviner la scène à laquelle elle serait confrontée. Peut-être n'y aurait-il que des sons ou des lignes de texte, peut-être verrait-elle un cerveau baignant dans un liquide nutritif. Peut-être pourrait-elle voir Yun Tianming en entier. Elle était consciente que la dernière probabilité était infime, mais elle avait tout de même tenté d'imaginer l'environnement autour de lui. Elle s'était figuré une multitude de situations, mais celle qui se présentait à ses yeux dépassait tout ce qu'elle aurait jamais pu imaginer. Un champ de blé baigné de soleil. Le champ ne devait faire qu'un demi-mou, soit environ 335 mètres carrés. Les blés avaient l'air mûrs, c'était le moment de la moisson. Le sol paraissait quelque peu étrange. Il était entièrement noir et recouvert de petites particules qui étincelaient comme des étoiles sous les rayons du soleil. Une bêche était plantée en bordure du champ. Elle avait l'air très banale. Un chapeau, qui semblait en apparence tressé avec de la paille, était suspendu à son manche en bois. Il était visiblement assez usé car des tiges saillaient. Derrière le champ de blé s'étendait une terre où poussaient toutes sortes de plantes vertes, probablement des légumes. Il y eut un coup de vent et les blés ondulèrent comme des vagues. Sur cette terre noire, Chung Sin vit un ciel d'un autre monde, un dôme pour être exact, qui se composait d'un lacis complexe de tubes entrecroisés d'épaisseur inégale. Parmi ces milliers de tubes, 2 ou 3 émettaient une lumière rutilante qui leur donnait l'apparence de filaments incandescents. Les portions exposées des tubes saupoudraient les champs de leur lumière. Celle-ci constituait certainement la source d'énergie de ces cultures en serre. Chaque tube ne restait allumé que peu de temps, puis il s'éteignait et un autre s'allumait à son tour. 2 ou 3 tubes rayonnaient simultanément en permanence. Ces lumières faisaient naître des ombres aux métamorphoses incessantes, comme si c'était le soleil qui slalomait entre les nuages. Chung Sin était déconcerté par l'agencement chaotique des tubes, qui n'était pas le résultat d'une négligence, mais au contraire, celui d'un effort et d'une conception inouïe. C'était une sorte de chaos ultime, comme si le moindre soupçon d'ordre était tabou. Il paraissait suggérer une approche esthétique aux antipodes de celle que connaissait l'humanité. Ici, le chaos était synonyme de beauté et l'ordre de laideur. Les tubes incandescents offraient un souffle de vie à cette composition étrange, tels des rayons de soleil perçant des couches de nuages. Un moment, Chung Sin se demanda même s'il ne s'agissait pas justement d'une représentation artistique des nuages et du soleil. Puis, l'instant d'après, elle interpréta cet agencement comme la figuration d'un gigantesque cerveau humain, où les tubes qui s'illuminaient alternativement évoquaient le fonctionnement d'un circuit neuronal. Mais faisant appel à sa raison, elle chassa ses illusions. Une explication était bien plus crédible. Il s'agissait sans doute d'un dispositif de dissipation thermique qui n'avait pas été spécifiquement conçu pour le champ, mais qui produisait des rayons lumineux dont pouvait profiter ce dernier. Si l'on se fiait uniquement à son apparence, le dispositif révélait des principes d'ingénierie inintelligibles pour l'esprit humain. Cheng Xin se sentait à la fois fasciné et désorienté. Quelqu'un approchait depuis les profondeurs du champ. De loin, Cheng Xin reconnut Yun Tianming. Il portait une veste argentée, faite dans une matière membraneuse qui paraissait réfléchissante. Elle avait l'air aussi ancienne que le chapeau de paille et semblait tout à fait quelconque. Les épis de blé cachaient son pantalon qui était probablement conçu dans la même matière. Tandis qu'il marchait lentement dans le champ, Cheng Xin reconnut son visage. Il avait l'air encore très jeune, à peu près le même âge que lorsqu'il s'était quitté 3 siècles plus tôt. Mais il avait une bien meilleure tenue et son visage avait repris des couleurs. Il ne regardait pas dans la direction de Cheng Xin. Il saisit un épi, le frotta plusieurs fois entre ses doigts, puis il souffla sur les glumes et grignota les grains, tandis qu'il continuait à marcher, jusqu'à sortir enfin du champ. Au moment où Cheng Xin se demanda si Yun Tianming était bien au fait de sa présence, il leva la tête, sourit et agita la main dans sa direction. « Bonjour, Cheng Xin, » dit-il. Ses yeux scintillaient de joie, mais c'était une joie très naturelle, celle d'un garçon de ferme travaillant dans les champs qui voit une jeune fille née dans son village revenir de la ville. C'était comme si les 3 siècles qui s'étaient écoulés n'avaient jamais existé, ni non plus les années-lumière qui les séparaient l'un de l'autre, comme s'ils n'avaient jamais cessé d'être côte à côte. Cheng Xin ne s'était pas attendu à ce regard. Il la caressait comme 2 mains généreuses et apaisait quelque peu ses nerfs à fleur de peau. À ce moment, la lumière verte du disque accroché au hublot s'alluma. « Bonjour, » fit Cheng Xin. Les profondeurs de sa conscience furent secouées par une vague d'émotions qui semblait en stase depuis 300 ans, comme un volcan endormi. Mais elle bloqua résolument toutes les sorties de ses émotions et se répéta en silence « Souviens-toi, contente-toi de te souvenir, souviens-toi de tout. « Est-ce que tu peux me voir ?»« Oui, » répondit Yun Tianming en hochant la tête dans un sourire et en enfournant un nouveau grain de blé dans la bouche. « Qu'est-ce que tu fais ?» Yun Tianming sembla quelque peu surpris par cette question. Il agita la main vers le champ. « Je cultive mon blé, pardi. Pour toi ?»« Bien sûr, que mangerais-je d'autre ?» Yun Tianming n'était plus le même que dans les souvenirs de Cheng Xin. Au moment du lancement du programme Escalier, c'était un patient en phase terminale, faible et rongé par la maladie. Encore avant, c'était un étudiant d'université taciturne et renfermé. Même s'il gardait son cœur fermé au monde, on pouvait deviner toute son histoire rien qu'en le regardant. Or, le Yun Tianming qui se présentait aujourd'hui devant elle ne donnait à voir qu'une maturité incontestable. Aucune histoire ne se lisait plus sur son corps, mais des histoires existaient forcément, sans aucun doute plus retorses, plus étranges et plus fabuleuses que 10 odyssées. Mais il ne laissait rien paraître. 3 siècles d'errance solitaire dans les abysses de l'espace et une immersion inimaginable dans un monde extraterrestre. Son corps et son âme avaient dû subir des épreuves et des supplices infinis. Toutefois, son corps n'en portait aucun stigmate. Il ne dégageait rien d'autre que de la maturité, une maturité aussi gorgée de soleil que les blés d'or derrière lui. Yun Tianming était vainqueur, et il était vivant. « Merci pour les graines que tu as envoyées, » dit Yun Tianming d'une voix sincère. Génération après génération, elles ont donné de belles récoltes. Sauf les concombres, ce n'est pas facile à faire pousser les concombres. Cheng Xin rumina silencieusement le sens de ses paroles. Comment savait-il que c'était elle qui avait voulu lui donner les graines, même si celles-ci avaient finalement été échangées contre des graines de meilleure qualité? Était-ce eux qui le lui avaient appris, ou bien... Je n'aurais pas imaginé que tu les cultiverais ici, que tu pourrais faire pousser un tel champ sur le vaisseau. » Yun Tianming se baissa pour ramasser un peu de terre noire qu'il laissa glisser entre ses mains. Les grains de terre étincelèrent en retombant sur le sol. « Ce sont des fragments de micrométéorites qui... » La lumière verte s'éteignit et l'orange s'alluma. Yun Tianming devait lui aussi avoir vu l'avertissement, car il s'interrompit et leva la main en souriant, faisant de toute évidence signe à ceux qui l'écoutaient. La lumière orange s'éteignit et la verte se ralluma. « Depuis combien de temps ?» demanda Cheng Xin. Sa question était délibérément floue. Elle laissait place à des interprétations multiples. Depuis combien de temps cultivait-il ce champ? Depuis combien de temps son cerveau avait-il été transplanté dans ce corps cloné? Depuis combien de temps la sonde du programme escalier avait-elle été capturée? Ou bien n'importe quel autre sens qu'il aurait voulu donner? Elle voulait lui accorder un espace suffisant pour transmettre son message. Longtemps. La réponse de Yun Tianming était encore plus floue. Il paraissait toujours aussi serein, mais la lumière orange qui venait de s'allumer l'avait probablement effrayé. Il craignait que quelque chose n'arrive à Cheng Xin. Yun Tianming poursuivit. Au début, je n'y connaissais rien. Alors j'ai regardé comment faisaient les autres, mais comme tu le sais, il n'y a déjà plus de vrais paysans aujourd'hui. J'ai dû apprendre moi-même, lentement. Heureusement, je n'ai pas besoin de grand-chose. Il apportait une confirmation à ce que Cheng Xin avait supposé. Ce que signifiait Yun Tianming était limpide. S'il y avait encore eu des vrais paysans sur Terre, il aurait pu les observer travailler la Terre et apprendre d'eux, ce qui voulait dire qu'il était en mesure de recevoir des informations de la Terre transmises par les intellectrons. C'était aussi la preuve qu'il entretenait des relations étroites avec le monde trisolarien. « Ton blé a bien poussé. Ce doit être le moment de la récolte, non ?»« Oui, c'est une bonne année. »«
Une bonne année ?»«
Oh, lorsque les moteurs sont à pleine puissance, l'année est bonne. Dans le cas contraire... »
Lumière orange. Une autre des suppositions de Cheng Xin obtenait confirmation. Le réseau chaotique de tubes qui surplombait le champ était bien une sorte de dispositif de dissipation thermique dont l'énergie lumineuse provenait du système de propulsion par antimatière du vaisseau.
« Bien, ne parlons pas de ça !» sourit à son tour Cheng Xin. « Tu veux savoir ce que je suis devenu ? Après ton départ,
je sais tout. Je n'ai cessé d'être avec toi. »
Yun Tianming prononça ces mots avec un tel calme et un tel aplomb que Cheng Xin en eut un frisson.
« Oui ?» Il n'avait jamais cessé d'être avec elle. Il l'avait regardée vivre par l'intermédiaire des intellectrons. Il avait certainement vu qu'elle était devenue porte-épée. Il l'avait vue jeter l'interrupteur rouge au dernier instant de l'ère de la dissuasion. Il avait vu ce qu'elle avait enduré en Australie, vu comment elle était devenue aveugle au milieu d'une terrible souffrance et, après tout cela, il l'avait vue se saisir de cette gélule. Il avait vécu tous ses tourments avec elle. Elle pouvait imaginer qu'en l'observant se débattre dans son purgatoire terrestre, il avait souffert encore davantage qu'elle. Si elle avait su plus tôt que cet homme qui l'aimait tant veillait sur elle à des années-lumière de là, elle en aurait éprouvé un profond réconfort. Mais pour Cheng Xin, Yun Tianming s'était alors déjà abîmée dans les tréfonds de l'espace et, la majorité du temps, elle se persuadait qu'il n'existait plus.
Si je l'avais su en ce temps-là, murmura Cheng Xin comme si elle se parlait à elle-même.
« Tu ne pouvais pas le savoir, » fit Yun Tianming en secouant légèrement la tête. Les émotions qu'elle enfouissait au fond de son cœur se remirent à bouillonner. Elle se força à les contenir, à ne pas verser de larmes.
« Et toi, qu'est-ce que tu as vécu? Est-ce qu'il t'est permis de m'en parler ?» demanda Cheng Xin.
Le risque qu'elle prenait était grand, mais il fallait passer par cette étape.
« Eh bien, laisse-moi réfléchir, » hésita Yun Tianming.
Lumière orange. Cette fois, elle s'était allumée avant même que Yun Tianming ne prononce le moindre mot. C'était un sérieux avertissement. Yun Tianming s'interrompit et secoua la tête.
Il n'y a rien que je puisse te dire. Vraiment rien.
Cheng Xin n'en rajouta pas, elle savait qu'elle était allée aussi loin que sa mission le permettait. Il ne lui restait qu'à attendre le prochain mouvement de Yun Tianming.
Nous ne pouvons plus parler comme ça,
lâcha-t-il dans un soupir qu'il compléta par un regard qui signifiait « pour toi ». Oui, c'était trop dangereux. La lumière orange s'était allumée 3 fois. Cheng Xin, elle aussi, soupira intérieurement. Yun Tianming abandonnait. Sa mission serait un échec, mais il n'y avait pas d'autre choix, elle le comprenait. Maintenant que sa tâche était laissée de côté, cet espace d'un diamètre de plusieurs années-lumière qui les englobait devenait leur monde secret. Justement parce qu'ils n'étaient que tous les deux, il leur était possible de se passer de langage. Ils pouvaient tout se dire avec les yeux. À présent que son attention se détournait peu à peu de sa mission, Cheng Xin percevait davantage de choses dans le regard de Yun Tianming. Elle était de retour à l'université, à l'époque où il la couvait sans cesse du même regard. Il avait été discret, mais son intuition féminine le lui avait fait sentir. Ce regard était dorénavant imprégné de maturité. Un rayon de soleil traversait des années-lumière pour l'inonder de chaleur et de gaieté. Mais ce silence que Cheng Xin aurait voulu voir se prolonger pour l'éternité ne dura pas, car Yun Tianming reprit la parole. « Cheng Xin, tu te souviens de ces moments passés ensemble, quand nous étions enfants ?» Cheng Xin secoua légèrement la tête. Cette question inattendue était incompréhensible. « Quand nous étions enfants ?» Mais elle réussit tout de même à dissimuler sa surprise. Ces nuits interminables où nous nous téléphonions pour bavarder avant de dormir. Ces histoires que nous nous racontions. Tu as toujours été meilleur que moi pour inventer des histoires. Combien en avons-nous créé? Plus d'une centaine, non?
Certainement, oui.
Cheng Xin n'avait jamais vraiment su mentir et elle s'étonna elle-même du sang-froid avec lequel elle avait donné cette réponse.
Tu te souviens encore de ces histoires?
J'ai oublié la plupart. Mon enfance est loin.
Pas pour moi. Ces dernières années, j'ai repris ces histoires, les miennes, les tiennes, et je les ai racontées sans cesse.
À toi-même?
Non, non, pas à moi-même. En arrivant ici, je me suis dit que je devais apporter quelque chose à ce monde. Qu'avais-je à leur offrir? J'ai longuement réfléchi et je me suis dit que je pourrais leur donner un peu d'enfance. Alors j'ai décidé de raconter nos histoires. Tu sais, les enfants ici les aiment beaucoup. J'ai même fait paraître un recueil que j'ai intitulé « Conte de la Terre ». Il a eu beaucoup de succès. C'est notre livre à tous les deux. Je n'ai pas plagié tes histoires. Celles que tu as créées portent ton nom. Ici, tu es une écrivaine célèbre.
L'humanité n'avait à ce jour qu'une compréhension extrêmement limitée de l'espèce trisolarienne. La copulation entre deux partenaires de sexe opposé consistait en une sorte de fusion qui donnait naissance à un être nouveau, lequel se décomposait en 3 à 5 rejetons, les enfants dont parlait Yun Tianming. Ceux-ci héritaient toutefois d'une partie de la mémoire de leurs parents et, à leur naissance, leurs pensées étaient déjà dotées d'un certain degré de maturité. Par conséquent, ils n'étaient pas réellement des enfants au sens humain du terme. Il n'y avait aucun véritable enfant sur Trisolaris. Aussi bien les experts trisolariens qu'humains considéraient que c'était là l'une des raisons les plus fondamentales du fossé culturel entre les deux mondes. Cheng Xin fut à nouveau prise d'angoisse. Elle comprenait maintenant que Yun Tianming n'avait pas abandonné et que le moment crucial était arrivé. Elle devait agir tout en se montrant d'une prudence extrême. Elle ajouta en souriant,
« Puisque nous ne pouvons rien nous dire d'autre, peut-être pourrions-nous nous raconter nos histoires? Elles n'appartiennent qu'à nous, après tout. »
« Les tiennes ou les miennes ?»«
Celles que j'ai inventées. Ramène-moi à mon enfance. »
La réponse de Cheng Xin avait presque été instantanée. Elle était elle-même surprise de la vitesse à laquelle elle avait compris ce que voulait faire Yun Tianming.
« C'est d'accord. » Alors nous ne parlerons plus de rien d'autre.
Nous nous raconterons nos histoires, tes histoires. »
Il haussa les mains et leva la tête, s'adressant de toute évidence à ceux qui le surveillaient, d'une manière qui exprimait « Cela est acceptable, n'est-ce pas ? Le contenu ne présente aucun danger. » Puis il se tourna vers Chung Sin. « Nous avons encore un peu plus d'une heure devant nous. Quelle histoire allons-nous raconter ? Le nouveau peintre royal, qu'en dis-tu ?»
Et c'est ainsi que Yun Tianming commença son récit, la voix grave et calme, comme s'il fredonnait une chanson de l'ancien temps.
Chung Sin s'efforça au début de tout retenir, mais elle se laissa bientôt absorber par les contes. Le temps s'égrenait tandis que Yun Tianming racontait ses histoires, trois en tout, toutes reliées entre elles. Le nouveau peintre royal, la mère des Taotiers et le prince eau profonde. Quand la troisième histoire fut terminée, un compte à rebours s'afficha, indiquant qu'il ne leur restait plus qu'une minute. Le moment de faire leurs adieux allait arriver. Chung Sin émergea soudain du monde des contes comme tiré d'un rêve. Quelque chose heurtait violemment son cœur et c'était insupportable.
« L'univers est grand, la ville est encore plus. Nous nous reverrons, c'est certain. »
Ce fut seulement une fois la phrase sortie de sa bouche qu'elle réalisa qu'elle venait de répéter les mots d'un Telectra.
« Dans ce cas, décidons d'un lieu pour notre prochaine rencontre. » Hors de la Terre, quelque part dans la Voie lactée. Alors, sur cette étoile que tu m'as offerte, notre étoile,
répondit Chung Sin sans même réfléchir.
Entendu, sur notre étoile.
Devant ces regards émus qui franchissaient les années-lumière, le compte à rebours tomba à zéro. L'image s'évanouit, remplacée à nouveau par du bruit blanc, et la sphère retrouva finalement sa surface miroitante originelle. La lumière verte s'éteignit dans la cabine et aucune des deux autres ne s'alluma. Chung Sin savait que sa vie ne tenait maintenant qu'à un fil. Sur un des vaisseaux de la première flotte trisolarienne à des années-lumière d'ici, le contenu de sa conversation avec Yun Tianming était réécouté et examiné. La lumière rouge, synonyme de mort, pouvait s'allumer à tout instant et il n'y aurait aucun avertissement orange. Sur la surface de l'intellectron déployé, Chung Sin revit le reflet de la cabine et le sien à l'intérieur de l'appareil. La moitié de la capsule qui faisait face à la sphère était transparente et donnait l'impression d'un médaillon dont Chung Sin était la figure gravée au centre. Vêtue de sa légère combinaison spatiale blanche, elle semblait pure, jeune, belle, mais elle était étonnée par la pureté et la limpidité de son regard, qui ne trahissait rien de l'effervescence des vagues d'émotions dans son cœur. Elle imagina ce médaillon sur un pendentif accroché autour du cœur de Yun Tianming, et cela la réconforta. Un moment que Chung Sin eut du mal à quantifier passa avant que l'intellectron ne disparaisse. La lumière rouge ne s'était pas allumée. L'extérieur de la capsule n'avait pas changé. La planète bleue était réapparue dans le lointain et derrière elle, le soleil. Ils avaient été témoins de tout. Elle sentit de nouveau l'hypergravité. Le moteur de la capsule amorçait l'accélération. Le voyage du retour avait commencé. Pendant les quelques heures que dura le trajet, Chung Sin régla l'intégralité des hublots de la capsule pour qu'ils soient le plus mat possible. Elle s'enfermait, se changeant en machine à souvenirs. Elle répétait encore et encore toutes les paroles de Yun Tianming, toutes les histoires qu'il avait racontées. L'accélération stoppa, la capsule entra en vol libre, elle glissa en apesanteur, son moteur changea de direction, puis il décéléra. Mais elle ne sentit rien de tout cela. Après une série de soubresauts, la porte de la capsule s'ouvrit et elle se retrouva inondée de la lumière artificielle du spatioport. Elle fut accueillie par deux des quatre officiers qui l'avaient accompagnée jusqu'au terminal de l'ascenseur spatial. Leur visage était inexpressif. Ils se contentèrent de la saluer sobrement avant de lui faire traverser le spatioport et de l'emmener jusque devant une porte étanche. « Docteur Chung-Sin, vous devez vous reposer. Ne pensez plus au passé, nous n'avions de toute façon pas vraiment l'espoir d'obtenir quelque chose », lui dit l'un d'entre eux, puis il l'invita à passer par la porte qui venait de s'ouvrir. Chung-Sin s'était au début figuré qu'il s'agissait de la porte de sortie du spatioport, mais elle découvrit qu'elle avait pénétré dans une chambre hermétique étroite dont les quatre murs étaient conçus dans une sorte de métal sombre. Elle ne vit pas la moindre fente à travers la porte qui se referma derrière elle. Ce n'était pas non plus une salle de repos. Le mobilier était très rudimentaire et il n'y avait qu'une chaise et une petite table sur laquelle reposait un microphone. On n'utilisait presque plus de microphones à cette époque. Les rares encore en usage servaient seulement pour les enregistrements hi-fi. Une odeur désagréable flottait dans la pièce, un peu comme celle du soufre. Sa peau la démangeait. L'atmosphère était chargée d'électricité statique. La pièce était occupée par les membres de l'unité spéciale constituée pour l'accueillir dans le spatioport. Quand les deux officiers entrèrent à leur tour dans la pièce, leurs expressions indifférentes firent aussitôt place à la même anxiété et à la même sollicitude que toutes les autres personnes présentes. « Vous venez d'entrer dans une chambre anti-intellectron, » dit quelqu'un à Chung-Sin. Elle apprit alors seulement que l'humanité avait enfin réussi à concevoir une technologie capable de se protéger contre leur perpétuelle surveillance, bien que ces espaces soient encore aussi étroits que celui-ci. Le chef d'état-major de la flotte solaire prit la parole. « Veuillez à présent réciter l'intégralité de votre conversation. N'omettez aucun détail dont vous pourriez vous souvenir. Chaque mot compte. » Puis tous les membres de l'unité spéciale sortirent, et il ne resta finalement plus qu'une ingénieure qui indiqua à Chung-Sin que les quatre murs de la chambre étaient électrifiés et qu'elle ne devait surtout pas y toucher. Chung-Sin demeura seule dans la pièce. Elle s'assit face à la petite table et commença à tout répéter. Elle termina après 1 heure et 10 minutes. Elle but un peu d'eau et de lait, se reposa quelques instants, et effectua un second enregistrement, puis un troisième. Au quatrième, on exigea de Chung-Sin qu'elle relate ses souvenirs dans une chronologie inversée. Le cinquième enregistrement eut lieu sous la conduite d'une équipe de psychologues. Ceux-ci lui administrèrent un traitement qui la plongea en semi-hypnose. Elle-même ignorait ce qu'elle leur avait raconté. 6 heures s'écoulèrent sans qu'elle en ait vraiment conscience. Quand les enregistrements furent enfin terminés, les membres de l'unité spéciale s'engouffrèrent dans la chambre, lui serrèrent chaleureusement la main et la prirent dans leurs bras. Les larmes aux yeux, ils la félicitèrent pour la mission qu'elle venait d'accomplir avec brio. Mais la machine à souvenirs qu'était devenue Chung-Sin s'était mise en veille. Ce ne fut que lorsqu'elle se retrouva dans la confortable cabine de l'ascenseur spatial, de retour vers la Terre, que la machine s'éteignit totalement et qu'elle redevint une femme. Elle fut alors submergée par un déferlement de fatigue et d'émotion. À l'approche de cette planète bleue, elle se mit à pleurer. Une seule phrase résonnait dans son cerveau. « Notre étoile, notre étoile. » Dans le même temps, quelques 30 000 kilomètres plus bas, à la surface, la demeure d'Intellectra était réduite en cendres par un incendie qui détruisit du même coup l'androïde contrôlé par l'intellectron. Juste avant, celle-ci avait annoncé au monde entier que tous les intellectrons du système solaire s'étaient retirés. Les humains demeuraient sceptiques face à cette promesse. Peut-être que l'intellectron qui avait quitté le corps de l'androïde était bel et bien parti, mais d'autres stationnaient probablement encore quelque part dans le système solaire ou sur la Terre. Mais il était aussi possible qu'elle ait dit vrai. Un intellectron constituait une ressource précieuse, et les rescapés de la civilisation trisolarienne naviguant dans l'espace auraient sans doute du mal à en recréer de nouveau avant un certain temps. Par ailleurs, il n'y avait plus beaucoup d'intérêt à ce que les intellectrons continuent à surveiller le système solaire et la Terre, sans compter que le risque était grand qu'ils se perdent en entrant dans une zone aveugle. Si Intellectra n'avait pas menti, cela signifiait que le contact entre les humains et les trisolariens était définitivement coupé et qu'ils redevenaient chacun des étrangers dans l'univers. Cette guerre et cette rancune longue de 3 siècles n'étaient plus que des nuages de fumée dans le cosmos. Et s'ils devaient un jour se revoir, comme l'avait prédit Intellectra,
Ce serait probablement dans un avenir très lointain. Mais aucune des deux civilisations ne savait réellement si elle avait un avenir.